Déjà, bonjour et merci à vous toutes et tous de vous être déplacés. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien de se retrouver en vrai. Je vais être assez bref parce qu'on a pas mal de sujets à balayer. D'ordinaire, on a une journée thématique qui se porte sur un type de ressource. Ça fait des années qu'on l'organise. Livres numériques, presse en ligne, etc., etc. Et puis, en fait, il y avait dans les questions qui se posent une sorte de sujet lancinant sur les marchés, sur le type d'acquisition, pas seulement les marchés. Et on s'est dit que ce serait bien d'organiser une journée à ce propos. Voilà. Donc, on va avoir deux types d'intervention, une matinée qui sera théorique et générale avec Chantal et Emmanuel de la BPI qui sont là et Marc Maisonneuve de Tosca Consultant pour une présentation un peu globale, grosso modo, des modes d'acquisition et des possibilités d'acquisition des ressources numériques, sachant qu'on a des acteurs qui sont très nouveaux dans le marché. Sachant que nous-mêmes, on n'est pas très très habitués à ce type de ressources. Et puis une après-midi qui sera plus consacrée à des partages d'expériences, là aussi très concrets, sur des modes d'acquisition selon le type de collectivité, voilà, le type de besoin aussi, et le type d'habitants à desservir. On a souhaité que les interventions soient assez courtes pour que vous puissiez poser beaucoup de questions, parce qu'on sait que surtout sur des questions comme ça, très techniques, c'est par le biais des questions-réponses qu'on peut un petit peu avancer. Donc on a des interventions qui vont durer une trentaine de minutes à chaque fois. Vous êtes là pour poser les questions, pour vous dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Le but de la journée, c'est de poser ces questions-là vraiment, hein. On a encore beaucoup d'interrogations par rapport à ça, parce que ce sont des marchés très très nouveaux pour nous, autant que pour les fournisseurs. Je crois qu'il y en a d'ailleurs qui se sont inscrits. Il y a deux éditeurs qui sont inscrits, c'est une bonne chose, parce que... faut qu'on puisse parler un même langage, il faut qu'on puisse se découvrir, c'est pas forcément la même économie. Donc voilà, on va essayer de traiter tous ces sujets. N'hésitez pas, hein, lâchez-vous. Le but de la journée, c'est ça. Et puis voilà, moi j'en ai fini. Je n'insiste pas. Je laisse la parole à Chantal, Sybille et Emmanuel Siné. Et évidemment, les petits remerciements d'usage à Isabelle Kiss, la directrice de la médiathèque Marguerite Duras, de nous accueillir ici. Généralement, on fait ça à la BPI. C'est une petite nouveauté aussi. Donc voilà, on change de thème, on change aussi d'accueil, et c'est très très bien. C'est un très beau lieu, donc merci de nous accueillir. Que Luc Pierrin et Sophie Petri nous avaient énormément aidés, ouais, dans l'organisation de la journée. Évidemment, je remercie nos collègues du réseau Carrel, en particulier Emmanuel. Au jour le jour, avec les fournisseurs, des meilleures conditions pour les bibliothèques. Geneviève qui est encore là-bas en train d'accueillir. Chantal qui travaille à la BPI mais qui est très présente à Réseau Carrel. Et évidemment, tous les membres de l'association, le CA, le bureau. Sachez qu'on est toujours en attente, donc n'hésitez pas à nous appeler. On vous accueillera très volontiers. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Alors nous, notre intervention, Emmanuel et moi, va porter sur le cycle de souscription d'une ressource numérique et les étapes que nous y distinguons. Alors, pardonnez par avance, on va être assez rapide pour vous laisser la parole. Donc, il y aura beaucoup d'implicites et nous avons beaucoup retranché de ce que nous avions à dire pour essayer d'aller le plus vite possible et de vous laisser la parole. Alors, avant de nous consacrer à ce cycle d'acquisition des ressources numériques, on voudrait mettre en exergue un rappel qui nous semble fondamental. Vous le savez déjà, quand on achète de la documentation physique, on est dans du stock. Alors que quand on va souscrire à une ressource numérique, on souscrit à un accès, à un service d'accès et donc à du flux. Cette différence, elle nous semble vraiment fondamentale pour comprendre ce qu'est le cycle des ressources numériques et qui va influencer énormément de critères auxquels nous avons affaire ensuite. À chaque étape du cycle qu'on va passer en revue un peu plus longuement pour les premières jusqu'à la commande et beaucoup plus rapidement ensuite, on pense que l'important, c'est qu'on se demande à chaque fois quels sont mes objectifs pour cette étape. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que mon établissement veut atteindre à cette étape? Parce que les réponses et la méthodologie mise en place derrière vont bien sûr dépendre de ces réponses à ces questions. En premier lieu, ça ne vous étonnera pas, on trouve l'étape de la veille, donc pour lesquelles les questions fondamentales à se poser, nous semble-t-il, sont de trouver l'information, de la partager. Alors quand je dis trouver, c'est aussi retrouver l'information, mais quelle information, la partager avec qui et comment? Donc ça, ce sont évidemment des questions auxquelles nous n'apportons pas de réponse aujourd'hui, mais des questions qu'il faut, je pense, se poser dans chacun des établissements pour faire quelque chose à sa mesure. Les objectifs de la veille, évidemment, dépendent aussi des situations. Est-ce que je suis en recherche d'une nouvelle ressource numérique parce que je veux compléter tel ou tel secteur? Est-ce que je souhaite simplement me tenir informée? Les éléments méthodologiques un petit peu à retenir, mais c'est surtout pour pouvoir poser ces points d'attention, c'est que la veille sur les ressources numériques est très très large. Bien évidemment, on va surveiller les nouveautés, les évolutions, les éditeurs, producteurs, diffuseurs, mais aussi leur situation économique, les achats, les fusions, les exclusivités, les modifications d'interlocuteurs, etc., etc. Donc c'est très large, ça va de la veille intellectuelle, technique, économique, etc.
Au niveau de Réseau Carrel, partager la veille, c'est une action de coopération. Donc il y a bien sûr une veille sur l'apparition de nouvelles ressources qui sont souvent signalées par les bibliothécaires du réseau aux éditeurs et aux négociateurs. Donc c'est comme ça que nous entrons en relation. Il y a une veille aussi sur l'évolution des offres, puisque comme on le sait, le domaine des ressources numériques est vraiment un monde en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Donc il faut être très vigilant quant aux changements économiques ou structurels qui impactent les fournisseurs de ressources. On l'a vu par exemple en ce moment sur un secteur comme la presse, qui connaît de grands bouleversements. Et ces changements de stratégie, que ce soit le changement de stratégie des titres de presse ou des groupes de presse, ont une incidence directe sur les entrées, les sorties ou les modifications d'archives chez les grands agrégateurs. On a vu par exemple la réduction sur des archives, la disponibilité des archives sur Europresse, les embargos sur Le Parisien, les annonces de disparition du Point et de l'équipe des agrégateurs de presse qui sont très présents en bibliothèque. Donc les sources de la veille, donc les sources d'information et les outils pour mettre en place la veille sont multiples, on ne va pas les énumérer ici parce qu'il faudrait une journée d'études pour en parler, mais on peut quand même se poser la question comment justement garder en mémoire, organiser cette veille pour pouvoir la réutiliser par la suite, notamment au moment où on en a précisément besoin. Donc pour cela, on peut la consigner dans un tableau général de suivi des ressources numériques ou dans des fiches de suivi des négos ou des fiches qui retracent l'historique des échanges ressources par ressources. Après, on peut se demander comment organiser, publier, partager sa veille. Pour cela, il y a des outils de curation, comme par exemple, on peut citer le Scoop-It de la bibliothèque de Metz-Nancy sur l'actualité des bibliothèques qui est très bien fait. et le Padlet, par exemple, qui avait fait aussi l'ABF pendant le confinement pour recenser toutes les initiatives des bibliothèques en ces temps de pandémie. Bien sûr, alors souvent, ces outils de curation sont directement reliés aux réseaux sociaux qui restent aussi des sources d'information et de partage incontournables. Alors après, on peut parler aussi du fameux benchmarking. Vous savez, quand une bibliothèque lance son projet de ressources numériques, elle fait un benchmarking. Enfin, en fait, il s'agit plutôt d'un recensement ou d'un examen comparatif des différentes ressources numériques proposées aux bibliothèques. Donc le catalogue Réseau Carrel, ça sert justement à ça, hein. C'est une aide au choix. On ne va pas refaire le recensement chacun dans son coin. Donc là, c'est la mise en commun, justement, des offres adaptées aux bibliothèques. Alors, dans nos discussions avec les adhérents, parfois, on se demande, mais est-ce qu'une ressource est mieux qu'une autre ? En vérité, on ne peut pas véritablement répondre de façon tranchée à cette question, puisque tout dépend des besoins de votre bibliothèque, de vos besoins documentaires, de vos besoins de services. À quelle politique publique vous voulez répondre, à quel programme, à quel projet, à quelle injonction vous voulez répondre, avec quel partenaire vous voulez travailler et utiliser en particulier telle ou telle ressource, je pense aux ressources par exemple d'auto-formation. Donc chaque ressource est unique et elle a sa propre pertinence au sein des collections et cette pertinence se mesure surtout en fonction du contexte, des objectifs et des besoins propres à la bibliothèque.
Suite à cette première étape, sans surprise, on arrive à une étape qu'on a appelée les premiers contacts avec l'éditeur. Sous-entendu, il va y en avoir d'autres. Là, il s'agit de trouver une zone d'intérêt commun, partagée en tout cas, qui vont être propres à chacun des acteurs, mais qui va aussi être propre à un cadre temporel qui est propre à la bibliothèque et au diffuseur, à l'éditeur ou au producteur. La question qu'on va se poser, c'est où est-ce qu'on met le curseur et les deadlines, elles vont un peu ensemble, au moment de ce premier contact avec l'éditeur. Bien évidemment, les objectifs de cette première rencontre va dépendre de ce que l'on attend de ce premier contact et de ce que l'on souhaite éviter. Donc à préparer en fonction de ce qu'on se sera écrit, c'est encore mieux de l'écrire parce que pour y réfléchir, il faut pouvoir le préparer en amont. Quelques éléments méthodologiques que nous avons relevés d'expériences partagées, c'est d'avoir une liste de questions exploratoires. Donc on prépare sa liste de questions et le plus important, c'est de soulever les ambiguïtés, ne pas rester avec des choses floues, qui restent floues et qui le resteront si on ne pose pas les questions. Faire préciser les réponses, le cas échéant, bien sûr, après la rencontre. Pensez aussi, on oublie souvent, de faire œuvre pédagogique. Il faut qu'on présente nos établissements, nos réseaux, notre contexte, qui ne sont pas forcément connus de la part des éditeurs. Bien souvent, ils ne connaissent pas ou mal, ou ont des représentations peut-être un petit peu anciennes, des bibliothèques, des réseaux de bibliothèques, et aussi des politiques publiques de lecture, et des regroupements, par exemple, de territoires qu'on connaît actuellement. L'étape suivante, elle existe ou elle n'existe pas, mais dans le cadre de Carrel, elle existe bien évidemment. C'est ce qu'on a appelé la coordination. Ici, il va s'agir de collectiviser un choix de souscription ou de publication d'offres au catalogue Carrel, malgré ou avec les spécificités de chacun et malgré ou avec des avis partagés. Donc c'est toute la difficulté, en même temps c'est tout le sel de cette coordination. Là aussi, bien sûr, cela dépend s'il s'agit d'un projet collectif ou non, mais toutes les informations qu'on aura accumulées dans ce cadre-là permettra de préparer l'éventuelle souscription. Bien évidemment, pour ce faire, on passe par, alors c'est du classique, hein, des exposés, des présentations et des discussions internes, que ce soit avec les collègues concernés, les directions, les tutelles, les services support, ne pas oublier. Bien penser à formaliser les questions, les remarques qui seront faites par ces différents acteurs lors des présentations et des discussions. Le cas échéant, in fine, pensez à inviter, si cela est possible et souhaitable, un ou plusieurs collègues lors des négociations ou lors de certaines phases de négociation. Ça peut être très utile.
La coordination, donc l'enjeu pour Réseau Carrel, c'est de collecter l'ensemble des besoins des bibliothèques. C'est pour cela que les échanges avec les bibliothécaires du réseau sont extrêmement importants. C'est le moment où on recense la diversité des besoins. Et c'est très important de connaître la problématique pour justement la faire remonter aux éditeurs. Donc les éditeurs, forts de cette synthèse, en fait, de l'ensemble des besoins, vont pouvoir adopter leur offre en conséquence. Et la négociation, justement, prend en compte l'ensemble des besoins, qu'ils soient techniques, tarifaires ou même administratifs, quand on explique les contraintes, les délais, la nécessité de faire un marché, etc., aux éditeurs. Parfois, c'est un monde complètement inconnu, ils ont besoin ils gagnent du temps en fait dans cette discussion avec le négociateur. Donc on explique aux éditeurs combien les bibliothèques de lecture publique sont diverses. C'est la difficulté en termes de taille, en termes de budget. Chacun dessert des publics et aux spécificités culturelles et sociales extrêmement différentes. Chaque collectivité a sa culture politique et il faut s'adapter à l'ensemble des besoins. Après, s'adapter aux besoins particuliers d'une bibliothèque sans prendre en compte l'ensemble des besoins risque d'aboutir in fine à une offre qui serait mal adaptée à l'ensemble des bibliothèques. Donc pour cela, nous, ce qu'on préconise, c'est un cadre d'adaptation dans lequel toutes les bibliothèques peuvent se retrouver. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, parce qu'il y a une telle diversité que c'est difficile de... Il y a toujours des exceptions. Mais bon, on essaye de faire quelque chose de plus simple pour répondre à l'ensemble des besoins.
L'étape suivante, c'est celle du ou des tests. Là, il s'agit d'organiser un test qui soit le plus efficient possible. Parce que faire un test, ça peut tout et rien dire. Alors, comment faire un test le plus efficient possible? On a pensé, on abuse un petit peu, mais c'est pour que ça marque, de dire que l'étape de préparation du test est quasi aussi importante que le test lui-même. Donc, il s'agit en général de recueillir des avis argumentés en situation réelle. Par un certain nombre de testeurs. Donc, les questions rituelles, qu'est-ce qu'on teste? Est-ce que c'est bien la ressource numérique dans sa globalité, en entier, ou est-ce une extraction ou une partie de la base? Qui teste? Alors, évidemment, les bibliothécaires, mais quels bibliothécaires? Donc, bien penser à ça. Une idée souvent pas mauvaise, c'est d'inviter aussi un collègue candide, qui ne connaît pas du tout les ressources numériques, qui fait tout autre chose dans la bibliothèque. C'est extrêmement intéressant de recueillir les avis de ses collègues. Bien entendu, les publics, eux aussi, peuvent être testeurs, mais tout ça à préparer en amont. Pensez à formaliser les retours de tests, et pour cela, ça veut dire aussi préparer des grilles de réponses aux tests, des grilles qui peuvent être toutes simples, plus complexes aussi, mais le tout, c'est de les préparer en amont, avant. À ce stade-là, les retours vers l'éditeur, ils vont comprendre la synthèse des éléments qui sont issus de nos veilles, la synthèse des premiers échanges avec l'éditeur, la synthèse du travail de coordination interne et bien entendu la synthèse des tests. Or, on se doute bien que ce retour à l'éditeur va être plein de multiples questions qui vont s'être posées à l'occasion de toutes ces étapes. Donc l'une et l'autre des étapes vont venir enrichir et comme une roue à aube, remanier en fait toutes les autres étapes. C'est pour ça que le cycle, en fait, il devrait lui-même boucler sur lui-même. Enfin, bien sûr qu'il boucle sur lui-même, mais chaque étape boucle aussi sur elle-même. Alors, nous arrivons à un gros morceau. Évidemment, on sélectionne ce qu'on vous dit, ce qu'il y aurait énormément à dire, c'est celle de la négociation. Une définition à laquelle nous avons pensé, qui vaut ce qu'elle vaut, elle n'est sûrement pas idéale, c'est le fait de mener une série de discussions avec l'éditeur, quand on dit éditeur, ça peut être producteur ou diffuseur aussi, qui vise à obtenir les meilleurs tarifs, pardon, les meilleurs services pour le meilleur tarif dans une relation commerciale non ponctuelle, non ponctuelle, en explorant tous les axes de gestion de la ressource. Alors, dans un contexte de flux, comme on l'a vu au tout départ, il est évident que la bibliothèque ne va pas faire un one-shot, elle ne va pas s'abonner pour une fois, elle va essayer de se réabonner pour installer la ressource, pour qu'elle soit vraiment utilisée et utile. Dans ce cadre-là, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre ces termes, meilleur service, meilleur tarif, relation commerciale non ponctuelle. Si je dis non ponctuelle, évidemment, ça veut dire que ça repondère autrement les termes meilleur service, meilleur tarif. Je ne m'appesantis pas. Quelques éléments méthodologiques parmi d'autres, de choses à savoir et à retenir pour ne pas se décourager. La négociation se présente souvent comme un processus itératif avec plusieurs rencontres, plusieurs échanges qui sont souvent nécessaires pour aboutir à un accord fructueux. Une négociation peut ne pas aboutir. C'est possible, voilà. Elle peut ou non être reprise ultérieurement. Donc ça, il faut aussi le garder en tête. Hein. C'est pas un échec, c'est comme ça. Il y a des moments où on ne peut pas faire aboutir, où ce n'est pas le bon moment. Théoriquement, tout peut se négocier. Théoriquement, mais tout peut se négocier. Bien sûr, ça va dépendre de vos objectifs, ça va dépendre de vos deadlines, ça va dépendre des demandes, s'il s'agit de demandes de tutelle, etc. Et du cadre temporel que l'on se fixe, sachant qu'on peut se fixer des cadres temporels qui sont plus ouverts que les cadres annuels qu'on a habituellement. Rappel aussi, mais très important, la négociation ne porte pas uniquement sur l'aspect budgétaire. Il y a bien, bien d'autres questions sur lesquelles on peut négocier et bien d'autres choses à faire avancer. Évidemment, le cadre budgétaire est extrêmement important et en bibliothèque publique, on sait combien c'est une question douloureuse. Donc je ne dis pas que ce n'est pas important, hein. Je dis qu'il y a plein d'autres choses importantes. Pour l'aspect tarifaire, par exemple, on ne va pas penser uniquement à négocier le tarif brut de l'année suivante. On va aussi voir ce qu'on peut faire sur la TVA, si on pense que la TVA est mal adaptée. S'il s'agit de livres numériques, pourquoi ce n'est pas à 5,5 et une partie à 20, hein, 20% pour les services. Si c'est de la presse, pourquoi pas 2,10 puisque maintenant, numérique et imprimé sont au même taux de TVA. Donc pensez à la TVA. Pensez au taux d'augmentation annuel. À voir avec l'éditeur, qu'est-ce que vous pratiquez, quels sont les déclencheurs de vos augmentations annuelles, etc. Pensez aussi à ce qu'on appelle les services associés, s'ils sont facturables. Certains peuvent être facturables, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. À voir, ça aussi c'est négociable. Utilisation de notices, chargement de métadonnées, statistiques, modules de personnalisation, frais du formateur éditeur, etc., etc.
Oui, alors, que négocie-t-on au réseau Carel? Alors, on négocie d'abord un cadre tarifaire de référence, clair et transparent, une simplicité technique et tarifaire, et un modèle vertueux qui facilite l'usage. Alors, passons en revue un petit peu les différents modèles économiques. Donc déjà, dans les premières discussions avec l'éditeur, les discussions de négociation, on définit bien le vocabulaire. Parce qu'il faut bien s'entendre là-dessus pour savoir de quoi, si on a un vocabulaire partagé, un vocabulaire commun. Donc les quatre éléments qui déterminent l'offre, c'est l'usage, l'accès, la durée de l'offre, en général c'est 1 an, le critère de variabilité du prix. Alors justement, sur ce critère de variabilité du prix, de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on quand on parle d'utilisateur, d'inscrit actif à la bibliothèque, d'inscrit au portail, d'habitant ? On voit bien qu'il y a toujours un flou qui est entretenu sur ces notions. On va vous dire par exemple des accès. Mais qu'est-ce qu'un accès ? Est-ce que c'est un utilisateur de la ressource ? Est-ce que c'est un usager de la bibliothèque ? Est-ce que c'est un administré ? Est-ce que c'est un accès simultané ? Donc il y a tout un travail justement de demande de précision et d'élucidation à faire, à mener, pour se mettre d'accord sur le critère. Et on voit bien que là, dans la définition du critère, il y a une marge de négociation très importante, puisque suivant ce qu'on va définir, le positionnement dans la grille tarifaire va être extrêmement différent. Alors, si on passe les différents modèles économiques, on peut commencer par la tarification à l'usage, ou dite au jeton. Donc cette tarification, elle est condamnée souvent par les bibliothèques, car elle est extrêmement risquée. Dans une vision à court terme, elle peut représenter des avantages. L'argument commercial, c'est vous payez uniquement ce que vos usagers consultent, c'est-à-dire au commencement, très peu. Mais sur la durée, ça c'est les défauts, vos efforts pour faire connaître l'offre auprès des usagers, vos efforts de médiation, vont vous conduire inexorablement à une augmentation de votre facture. Donc là, la bibliothèque est victime de son succès. On a bien vu que cette tarification posait des problèmes en termes de gestion et de sécurisation budgétaire. Et ça s'est très bien vu lors du premier confinement. Les bibliothèques qui avaient souscrit à des offres basées sur une tarification à l'usage se sont trouvées face à un risque financier extrêmement problématique. Elles se sont retrouvées dans une situation où leur offre numérique fonctionnait très bien. Elles connaissaient un grand succès, mais elles craignaient de ne plus pouvoir l'assumer. Pour vous donner un petit exemple rapide sur les aboutissements des négociations collectives, on a bien vu avec Caféine, qui pratiquait une tarification en jetons, qui posait beaucoup de problèmes. On a recensé, synthétisé toutes les problématiques que posait cette offre, notamment au niveau tarifaire. Tout ça est remonté auprès de l'éditeur et c'était complètement en adéquation avec ce qui est leur remontée client directe. Donc Caféine a monté une offre illimitée, ce qu'on appelle illimitée. Et cette offre, elle a été, officialisée, c'est-à-dire publiée au catalogue Carrel en décembre 2020, suite au confinement, justement. Puisque le confinement a eu un effet d'accélérateur. Alors attention, parce que parfois il y a certains éditeurs qui passent sur des offres illimitées, mais pour certaines bibliothèques qui ont beaucoup d'usage, là ils reviennent à une prise en compte de l'usage pour justifier une augmentation tarifaire. Et là, comme il y a une notion d'usage, on n'est plus dans une offre illimitée. On revient sur une offre à la tarification en jetons. Alors, l'offre illimitée, justement, ça devient la norme aujourd'hui. Les avantages, c'est qu'il n'y a aucun frein à la promotion de la ressource. La dépense est sécurisée. L'offre peut être pérennisée et les accès distants sont plus aisés. Les défauts, c'est un modèle qui est réputé onéreux. Mais là encore, tout dépend où la négociation a mis le curseur. C'est-à-dire qu'en général, quand un éditeur passe d'une tarification à l'autre, quand il passe sur l'illimité, il va positionner ses anciens clients à peu près quand même sur la même tranche, parce que pour pas que ses clients s'enfuient en voyant une augmentation budgétaire insupportable. Donc c'est un modèle qui reste peu adapté aux expérimentations éphémères. David de Paris on pourra en témoigner. Donc voilà, après il y a certains éditeurs qui proposent une double tarification, c'est-à-dire une tarification pour des usages et des accès illimités et une tarification avec des accès simultanés. Alors justement, la tarification par accès simultané, en fait c'est le prix forfaitaire par accès simultané pour une période d'un an. L'exemple typique c'est Europress. Le prix de l'abonnement est proportionnel au nombre d'accès simultanés avec un prix forfaitaire annuel par accès. Par exemple, si la bibliothèque a souscrit à deux accès simultanés, seuls deux usagers pourront en même temps consulter Europress, sur place et à distance. Alors, dans ce type d'accès, l'éditeur doit prévoir une déconnexion automatique, un time-out, sur un temps assez court afin de ne pas bloquer les accès, alors que la ressource n'est plus utilisée par l'usager. Cela doit être doublé par une possibilité de déconnexion volontaire offerte à l'usager à la fin de la session de consultation. Et on voit bien là que le modèle tarifaire est lié à un système technique. L'avantage de cette tarification, c'est qu'elle est à géométrie variable. Même un important réseau de bibliothèques pourra limiter son budget à 3 accès pour une ressource qu'il lance à titre expérimental. Donc, il ne se voit pas imposer un forfait en fonction de sa taille. Après, le défaut, c'est que ce système peut engendrer des refus d'accès à l'usager. Et c'est d'autant plus problématique lorsque ça se passe dans les murs de la bibliothèque. Donc, si ça se répète tout souvent, l'usager peut considérer que cela ne fonctionne pas. Et ce système empêche également l'utilisation de la ressource en groupe. Alors, parfois, on a des éditeurs qui ne bloquent pas l'usage, qui laissent la ressource être utilisée. Et c'est lors de la négociation pour déterminer le tarif de l'année prochaine qui, statistique à l'appui, va discuter avec le bibliothécaire pour repositionner le nombre d'accès simultanés forfaitaires auxquels il faut souscrire. Et ça peut se passer quand la relation avec l'éditeur est de qualité et bonne. Là, on arrive dans une discussion dans laquelle éditeur et bibliothécaire peuvent se mettre d'accord. Après, il y a d'autres exemples d'innovation en matière de modèles tarifaires. Il y a des modèles hybrides, par exemple des forfaits à la connexion simultanée qui rapidement se transforment en offre illimitée. Ça, c'est assez adapté aux pure players. Après, on a aussi beaucoup d'exemples de co-construction d'offres avec tes éditeurs, surtout lorsqu'ils arrivent sur le marché, et de bibliothèques, de négociations concertées entre bibliothèques. C'est ce qui se passe avec la bibliothèque de Brest, par exemple, sur une ressource comme PressReader. Et vous-même, alors ce qui est très important, j'insiste là-dessus, vous avez mené des négociations qui ont abouti à un résultat extrêmement intéressant. Donc moi, je vous invite à les partager, à partager le fruit de vos négociations afin qu'elles puissent se généraliser à l'ensemble du réseau. Par exemple, suite à la pandémie, les bibliothécaires ont certainement pris conscience de l'urgence de partager ces infos, de ne pas rester isolé, de coopérer pour mieux négocier face aux éditeurs. Et comme la négociation est un processus itératif qui se nourrit des échanges entre bibliothécaires et avec éditeurs, il faut échanger pour mettre en commun. On aurait tout à y gagner. Voilà. Je vous remercie.
L'étape suivante dans la logique de notre fameux cycle, c'est celui des marchés. Donc, il va s'agir là de respecter le cadre légal pour formaliser les termes d'une forme de contrat avec le prestataire, tout en y exprimant nos besoins, nos spécifications. Alors là, ce travail-là, si on y est soumis, cela va sans dire, mais ce travail-là, c'est un travail normalement commun entre le service juridique et les bibliothécaires. Pour l'aspect métier, évidemment, les bibliothécaires doivent absolument être présents dans ce processus. Il faut d'une part penser à expliciter ses besoins et ses attentes au service juridique, qui ne les connaît pas forcément. Il faut qu'il puisse les prendre en compte dans la rédaction ensuite des clauses du marché qu'il va rédiger. Il faut demander à relire et à valider le marché, parce qu'entre expliciter et relire ce qu'a écrit le marché juridique, il peut y avoir parfois certains gaps. Alors, quelques éléments méthodologiques, ça va sans dire qu'il faut, non pas connaître forcément par cœur, mais en tout cas savoir que ça existe et savoir où le trouver. Donc, c'est dans le code de la commande publique, ça ne nous étonnera pas. Les principales obligations légales auxquelles les bibliothèques, comme tout autre acteur public, est soumis. Donc, en gros, les seuils des marchés, les différents types de marchés publics et peut-être, en gros, le processus d'appel d'offres. Bien penser à borner son objet. Qu'est-ce qu'on cherche ? À clarifier les définitions. À expliciter les spécifications de ses attentes. Dans le marché, il faut bannir l'implicite. Il faut qu'il n'y ait rien d'implicite. Pour vous, c'est implicite, mais pas pour ceux qui vont y répondre. Parce que le marché, c'est vraiment le document qui va servir de base, de support à toute la relation avec le prestataire, notamment en cas de problème. Ce marché, il aura une valeur juridique qui va être supérieure à tous les autres documents, que ce soit un contrat, un devis, une licence, etc. Donc il faut le soigner. Il faut penser aussi à prévoir des leviers d'intervention. Alors il y a plusieurs clauses où on peut essayer de prévoir ces différents leviers. Par exemple, dans l'indication des minima ou des maxima, ils ne sont plus obligatoires. Donc voilà, ils ne sont plus obligatoires, les minima. Pensez aussi à intégrer les évolutions prévues de la doc ELEC ou prévisibles, parce qu'on sait que ça évolue tout le temps. Donc si on a un marché à 4 ans, voilà, il faut pouvoir prévoir une certaine souplesse dans nos marchés pour pouvoir intégrer ces évolutions. Il faut aussi anticiper les préparations de marché parce que malheureusement, on le sait, le temps de préparation, le temps d'aller-retour, de relecture, de validation, puis le temps de notification peut prendre du temps. Or, la bibliothèque ne pourra passer sa commande qu'une fois que le marché aura été notifié, c'est-à-dire que l'accusé de réception aura été reçu par la bibliothèque qui prouve que l'éditeur a bien reçu et signé ce marché. Quel type de marché? Je ne vais pas m'étendre parce qu'il y en a pléthore, mais je vais vous citer avec des exemples Carrel, souvent les trois les plus communs auxquels nous avons affaire. Évidemment, pour choisir son type de marché, alors je vous le dis de façon très très banale, mais c'est surtout se demander à quoi souhaite souscrire la bibliothèque. Parce que si la bibliothèque, par exemple, souhaite souscrire un portail avec multiples ressources qui sont placées sur et accessibles depuis ce portail, type CVS, ça ne sera pas la même chose que si la bibliothèque souhaite acquérir une ressource numérique, par exemple dans un secteur. Je veux une nouvelle ressource en presse ou je veux une nouvelle ressource en auto-formation. Donc là, par exemple, si c'est en presse, on s'attend à grosso modo, à qui va répondre? Est-ce que ça va être Scission pour Europress, Press Reader ou Caféine? S'attendant à qui va répondre, en reprenant le benchmark de tout à l'heure d'Emmanuel, on prépare son marché aussi en conséquence. La bibliothèque peut aussi souhaiter confier, si le seuil le permet aussi, ses acquisitions numériques à un prestataire. Autre type de marché, donc dans ce cas-là, ça sera un appel d'offres, hein, pardon, j'ai oublié de citer. Ce qui arrive de plus en plus souvent, suite à plusieurs faillites successives de prestataires de services d'abonnement, c'est que les éditeurs deviennent exclusifs. C'est-à-dire qu'une ressource peut être diffusée en exclusivité par un éditeur ou un producteur ou un diffuseur. Dans ce cas-là, il est tenu de fournir un certificat d'exclusivité et c'est sur la base de ce certificat d'exclusivité qu'on va monter un marché négocié. Marché qui sera, par exemple, un accord cadre avec ou sans bon de commande. Ça va dépendre de la nature des prix. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail. Il y a énormément à dire sur les marchés. Pour terminer, notre grande dernière étape, hein, c'est la commande. Alors là, c'est quand même beaucoup plus classique. Je pense que tout le monde connaît cette étape, hein, grosso modo. Donc, il va falloir acter la souscription de l'abonnement ou de l'achat via l'engagement juridique de la bibliothèque. Donc, la commande, c'est un engagement juridique, il faut s'en souvenir. L'objectif, c'est de faire correspondre notre souscription avec la description qu'on va porter sur notre bon de commande. Le dernier document administratif échangé faisant foi. Donc, essayez de bien penser à ce que vous mettez, ce que vous écrivez, à ce que vous indiquez sur vos bons de commande. Aucune chose n'est un détail, hein. Donc les dates évidemment, le nom, le titre de la base, ses options, si vous avez des conditions particulières, etc. Anticipez aussi les contraintes du cycle budgétaire et du cadencement qu'on nous demande en bibliothèque, ce qui peut parfois nous amener à revoir les dates d'abonnement. Là, on repart sur la boucle de la négociation. On va passer beaucoup plus rapidement en ne vous citant un peu que les quelques problématiques pour les autres étapes qui sont non pas forcément plus connues, mais dans lesquelles l'intervention des bibliothécaires est très importante et qui ont aussi une influence sur les ressources. Le signalement et l'accès, où il va s'agir de décrire et de donner accès aux ressources de façon à rencontrer le plus aisément possible l'usager. Là, il y aurait beaucoup aussi de questions à se poser sur la transparence, sur est-ce que ces accès doivent être multicanaux ou pas, sur le type de description ou de signalement qu'on y fait, et sur l'objet qu'on décrit. Quel objet on décrit ? Là aussi, il y a plusieurs choix. Et je vous rappelle qu'on doit quand même viser à faire connaître la ressource et à y accéder facilement. Donc, il faut déjà qu'elle existe. Étape suivante, la formation interne, où il s'agit d'impliquer l'équipe des bibliothécaires donc dans la promotion de l'offre et du renseignement au public. Les bibliothécaires en contact du public sont les premiers prescripteurs et les premiers accompagnateurs des ressources numériques, ça vous le savez déjà. On a mis ensemble communication, valorisation, où il s'agit de rendre visible et intelligible l'invisible. Les ressources numériques ne sont pas visibles dans une bibliothèque. Hein. On voit les livres, on voit les tableaux, on voit les livres d'artistes, on voit les revues, on voit les disques, les CD, etc. Pas les ressources. Donc il faut trouver un moyen pour les rendre visibles et intelligibles. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans ? Quand il y a des milliers et des milliers de documents dedans, comment fait-on ?
Oui, c'est une question qui revient tout le temps hein, dans Réseau Carrel, la question de la valorisation des ressources. Hein, donc, on peut citer la communication, la valorisation auprès du public. Alors, dans la bibliothèque, avec du matériel de communication ou sur le portail, certaines bibliothèques adoptent aussi des démarches UX pour améliorer l'ergonomie et l'accessibilité des portails de bibliothèque. On essaye aussi de répondre à un besoin identifié du public et même d'aller jusqu'à la co-construction avec les usagers d'un projet hein, en s'appuyant sur une ressource numérique. On peut par exemple citer Whisperies qui offre la possibilité d'avoir un petit outil de médiation numérique, de création d'albums numériques. Donc ça peut être un bon support pour créer un album en relation avec un illustrateur, une classe et la bibliothèque. Hein.
La médiation auprès des publics, là aussi on ne s'étend pas. Ben, comment est-ce qu'on implique nos usagers dans l'offre de services des collections numériques ? La maintenance, il ne faut pas la négliger parce qu'on sait qu'il y a maintenance. Donc comment est-ce qu'on vérifie et comment on fait aller le bon fonctionnement de la ressource ? Donc intervenir rapidement, mais aussi centraliser tous les problèmes, toutes les anomalies, organiser des contacts, faire que ça porte au moins sur deux personnes. Il faut penser aux absences. Or, il faut toujours que quelqu'un puisse rétablir le bon fonctionnement. Enfin, l'évaluation. Là, évidemment, les questions sont nombreuses. Qu'est-ce qu'on évalue ? En fonction, évidemment, de ce que l'on va évaluer, que ce soit les usages, les utilisations, l'intérêt de la base, la mise en parallèle avec la politique d'accessibilité de la bibliothèque, on va s'appuyer sur une multiplicité de critères. Et normalement, après tout ça, on aboutit un an après. Si on a un abonnement sur un an, hein, ce qui est classique mais n'est pas obligatoire, est-ce qu'on va renouveler l'abonnement ? Donc on va interroger la pertinence du choix après une mise à l'épreuve d'un an. Alors en conclusion, parce que nous avons mangé tout notre temps, donc nous allons très vite, ce qu'on souhaiterait dire, c'est qu'il ne faut pas éviter... Il ne faut pas hésiter à recueillir très consciencieusement toutes les informations, parce que dans ce cycle, on recueille énormément d'informations qui peuvent nous paraître parfois insignifiantes. C'est comme dans les enquêtes criminelles, mais rien n'est insignifiant. Consignez toutes les informations à chacune de ces étapes. Vous les mettrez à jour. Elles sont précieuses, pourquoi ? Parce qu'elles nous aident justement à la gestion de ces ressources et ensuite à pouvoir juger et à pouvoir informer, à pouvoir valoriser cette ressource. Veillez à les mettre à jour, parce qu'évidemment, elles évoluent, tout en conservant l'historique, important aussi. Et ce sont ces données qui vont nourrir toute la gestion des ressources numériques. Sachant que le cycle ne s'arrête jamais et qu'il est chaque étape étant itérative sur elle-même aussi. Hein, je crois que j'ai à peu près fini. Donc la parole va être à vous. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous poser des questions. Merci.
Merci. Bonjour. Clémence Bresse de la médiathèque de Saint-Nazaire. J'ai une question sur les marchés. On est dans une situation où le service juridique de la mairie nous demande de faire un marché pour les ressources numériques qu'on possède déjà. Et on se retrouve dans une situation où en fait, on ne va plus pouvoir choisir quelles ressources numériques on veut utiliser ou proposer à notre public, mais devoir faire un marché avec des critères de choix, en fait. C'est une situation du coup un peu nouvelle pour nous, un peu difficile. Est-ce que vous avez des conseils ?
Alors, difficile, parce que... Enfin, difficile, évidemment, il y a beaucoup de conseils. Je suppose que si le service juridique vous demande de faire un marché, c'est que le seuil... votre collectivité a dépassé le seuil du produit, de la famille homogène de produits. Hein, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense en collectivité locale. Parce que même si la bibliothèque a un tout petit budget... En collectivité locale, il y a d'autres acteurs publics qui eux-mêmes ont des abonnements numériques. Donc on arrive très très vite au seuil, croyez-moi. Donc d'une part, c'est une obligation légale et c'est justement l'objectif des marchés de pouvoir ne pas choisir nos ressources et de les mettre en concurrence. C'est vraiment le principe de la mise en concurrence. Alors, il n'y a pas de modèle. Hein, ça dépend vraiment de vos attentes, de ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez un marché qui puisse servir toutes les ressources que vous avez, auquel cas vous allez plutôt viser des agences d'abonnement ? Parce que si vous avez des ressources en presse, en auto-formation, en livres numériques, etc., aucun acteur, à ma connaissance, ne va pouvoir répondre à tous vos besoins en même temps. Sauf certains acteurs, mais avec des ressources déjà très ciblées. Donc, avant de faire le marché, posez-vous vraiment la question à qui on va adresser ce marché ? Déjà, est-ce que c'est un marché à appel d'offres ou non ? Bon, tout ça, il faut le déterminer avant, mais vous, en tant que bibliothécaire, vraiment en vous posant les questions, à qui on va adresser ce marché ? Vérifiez aussi auprès de vos interlocuteurs des bases que vous avez déjà, s'il n'y en a pas parmi eux qui sont exclusifs. Parce que s'il y en a qui sont exclusifs, dans ce cas-là, vous leur demandez un certificat d'exclusivité et vous montez un marché négocié, qui est moins long, qui est plus simple, on va dire, à faire qu'un appel d'offres, ça c'est clair. Et au moins, vous savez quelle base vous avez, avec qui vous contractez. Après, les conseils, c'est vraiment se poser les questions, définir précisément ce qu'on attend, ce qu'on veut éviter, ce qu'on ne veut pas. Et si c'est un marché à appel d'offres, soignez particulièrement le règlement de la consultation, parce que c'est là-dessus que vous allez vous appuyer pour faire votre choix in fine, qui devrait être argumenté et loyal et je sais plus comment quels sont les termes employés, mais imprégnez-vous du code de la commande publique pour voir quelles sont les attentes, en tout cas ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Mais je dirais en premier lieu, demandez-vous à qui vous allez vous adresser. Est-ce que c'est une agence d'abonnement ? Est-ce que c'est à une plateforme, un portail numérique ? Est-ce que c'est à un acteur qui pourrait tout faire ? Enfin, ou éliminez déjà tous ceux qui sont exclusifs. Déjà, vous y verrez peut-être plus clair. Après, les conseils suivent des formations pour les marchés numériques. Ça aide.
Bonjour, Stéphane Dangel, la Bibliothèque d'Alsace. Moi, j'ai une question par rapport à la notion d'usager. Selon les fournisseurs, on voit des notions d'usagers actifs qui ne veulent pas dire la même chose pour l'un et pour l'autre. Certains parlent de visiteurs uniques, mais pour les uns, ça signifie une chose et pour d'autres, ça signifie autre chose. Ce qui est très ce qui, au niveau de l'analyse des offres, pose une difficulté. Parce que d'une part, on ne peut pas travailler sur une définition précise qui serait fidèle à un opérateur, ce qui voudrait dire que les autres sont complètement désavantagés. Et d'un autre côté, c'est très difficile de comparer véritablement des offres qui sont très différentes, sur lesquelles on ne distingue pas forcément d'emblée la différence.
Je vais laisser la parole. Votre question revient très, très, très souvent et c'est tout à fait logique parce qu'effectivement, c'est un constat. Je laisse la parole à Emmanuel juste en précisant que si vous êtes en procédure de marché, bien que tous les éditeurs ont des définitions différentes sur l'usager, vous ne vous posez pas la question. Dans votre marché, vous allez mettre votre définition de l'usager et ainsi, les prestataires répondront avec votre définition et vous pourrez comparer. Quand vous êtes dans une procédure de marché, c'est vous qui décidez. Je laisse Emmanuelle répondre parce que malheureusement, elle connaît très bien la question.
Oui, c'est ça, c'est la majeure partie des discussions. Hein. C'est quand on reçoit la grille tarifaire, même parfois on a des discussions avant de recevoir la grille tarifaire avec l'éditeur. On croit qu'on s'est mis d'accord sur cette histoire d'accès ou de compte utilisateur. Et quand on reçoit la grille, eh ben, là on retrouve sur la feuille accès. Bon, on dit non, ça va, c'est pas possible. Donc on revient, on dit non, ce n'est pas un accès, c'est un compte utilisateur. Donc en fait, il faut pas lâcher, il faut imposer sa définition, que ce soit dans une discussion au cours de la négociation. Et si vous pouvez le formaliser dans le marché, comme le disait Chantal, c'est encore mieux. Mais il y a un véritable...
Peut-être tu peux lui préciser à Karel ce que vous retenez le plus en tant qu'usager. Qu'est-ce qui est dominant aujourd'hui comme usager dans les négociations, Karel?
Les critères de variabilité du prix ou
oui,
de...
Alors, c'est...
Alors oui, la référence, on a quand même des notions qui sont très bien définies, notamment par le SLL, hein, dans notre rapport annuel qu'on doit rendre... Donc c'est un inscrit actif à la bibliothèque. Un inscrit actif à la bibliothèque, c'est un usager, ça a été défini comme ça par le ministère, qui a emprunté au moins une fois un livre dans l'année. Ok, c'est un inscrit actif à la bibliothèque. Donc ça, c'est une donnée qui donne une idée de l'activité de la bibliothèque, mais qui doit être complètement décorrélée de l'usage de la ressource. Une ressource comme, par exemple, Simulang, qui est spécialisée en auto-formation en anglais professionnel. La moitié des inscrits actifs, ça va être de la jeunesse, et vous allez avoir encore une part infime d'utilisateurs de la ressource qui va utiliser une part infime d'inscrits actifs qui vont utiliser Simulang. Donc en fait, le but, c'est de décorréler en fait le critère de variabilité du prix de l'usage, et ce le plus possible, et en se basant sur des critères qui sont sur lesquels on partage une définition, qui a une définition un petit peu officielle. Donc, bien sûr, il y avait les BDP qui n'avaient pas d'inscrits actifs. Donc là, on s'est rapproché de l'Association des bibliothèques départementales et on s'est mis d'accord sur un critère de variabilité du prix qui est un inscrit à l'offre numérique du réseau ou du département, c'est-à-dire une personne qui s'est connectée au moins une fois à l'ensemble de l'offre numérique de la BDP ou du réseau de bibliothèques de lecture publique départementale. Voilà, donc ça marche aussi pour les réseaux. Donc là, on a ces deux grands critères qu'on a décorrélés de l'usage, puisque le but est de s'éloigner le plus possible de l'usage, de façon à promouvoir l'utilisation de la ressource.
Pour rebondir sur l'intervention d'Emmanuel et répondre à votre question, en fait, à Réseau Karel, nous, on fournit une sorte de base. C'est-à-dire qu'on essaye d'homogénéiser à peu près les pratiques économiques, de dire aux fournisseurs, voilà comment on fonctionne avec des marchés annualisés, on fonctionne avec un certain nombre d'inscrits. Tous les inscrits à la bibliothèque ne vont pas, évidemment, profiter ou vouloir profiter de l'offre numérique. Donc c'est une sorte de base qui est en fait vraiment théorique et idéale, quoi. Et ce que je vous engage à faire, et je pense que tous les retours d'expérience qui auront lieu dans cette journée le montreront, c'est que nous, on est là pour expliquer grosso modo comment ça marche en général. Hein, c'est ce à quoi sert l'association. Mais après, je vous engage vraiment à aller discuter avec les fournisseurs, leur dire, on a tant d'inscrits, votre grille tarifaire, là, ça ne marche pas avec ce qu'on propose. Donc, parlons entre nous. Voilà, on a cette base qui vaut ce qu'elle vaut, il en faut une, mais elle est vraiment, elle est pas fixe, quoi. Et à partir de là, ouais, il faut vraiment discuter avec les fournisseurs, je pense que c'est vraiment important.
Ah oui, surtout que le monde, enfin c'est un peu, c'est ce qu'on dit. En préparant cette intervention avec Chantal, on disait que le monde des ressources numériques, c'était un peu le Far West, où tout était possible et tout était en perpétuelle évolution. Donc là, il y a une grande marge de manœuvre en termes de création, de négociation. On voit bien que toutes les catégories ne sont pas fixées.
Je prends un exemple pour illustrer ce que dit Fabien aussi. C'est un critère théorique. Donc, par exemple, il y a un éditeur, et je trouve que c'est une bonne idée, moi, qui a pris comme critère pour déterminer le prix d'une bibliothèque le nombre d'ETP d'équivalent temps plein, mais pas des usagers, des bibliothécaires. Évidemment, à la BPI, on est 250. À Marguerite Duras, je ne sais pas combien vous êtes. Donc, ça va aussi déterminer la taille de la bibliothèque. Bon, on voit bien que c'est complètement décorrélé de l'usage. Le tout, c'est d'avoir un critère. Après, on choisit celui qu'on veut, mais qu'on connaît, qu'on peut partager.
Bonjour, Sarah Lambert du département du Val-de-Marne. Je travaille donc sur la plateforme CVS Eureka. J'avais une question par rapport à tout ce qui était SIGB et connecteur, parce que c'est très à la mode comme sujet. Donc les connecteurs, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en gros c'est une passerelle entre les ressources, enfin une plateforme de ressources numériques qui propose plusieurs ressources, et puis les sites des médiathèques ou les sites des villes. Et l'idée c'est de proposer aux usagers de se connecter en une seule fois aux deux plateformes au lieu d'avoir 15 identifiants, 15 mots de passe. Du coup, est-ce que le réseau Carel peut nous aider aussi sur justement la négociation avec les prestataires de ressources sur justement la mise en place de ces connecteurs, parce que j'ai l'impression que c'est un peu à la tête du client en fait, le prix de mise en place du connecteur. Et je remarque des grosses disparités d'une ville à l'autre alors que c'est le même SIGB. Et voilà, donc je me demandais quel est le champ d'intervention du réseau Carel là-dessus aussi, parce que ouais, c'est une question d'actualité. Voilà, merci.
Alors, en fait, il faudrait un Carel pour les SIGB. Voilà. Donc, parce que ces frais-là, chacun se renvoie la balle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éditeurs, et notamment des petites structures, hein, qui ne facturent pas les frais de connecteur, alors que concrètement, ils font un travail d'interfaçage au même titre que le SIGB. Donc les SIGB facturaient aussi des frais de connecteur, hein, on connaît bien, bon, sans les citer, bon, c'est Archimède, hein, qui était le roi de la facturation du connecteur. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres fournisseurs de SIGB qui se sont positionnés en disant « mais nous, on ne facture pas les connecteurs ». Voilà, c'était un argument commercial. Donc là, on voit bien que la concurrence, en fait, fait évoluer un petit peu les choses. Après, les éditeurs, ils sont très tributaires de cette histoire de connecteurs également, hein, puisqu'ils sont obligés de s'adapter à la technologie des fournisseurs de SIGB. Et ça leur coûte aussi. Ils se disent, attendez, pourquoi le SIGB il facture et moi je facturerai pas? Donc, bien sûr, nous, on leur recommande de ne pas facturer, hein, parce que sinon, on s'en sort plus. Les bibliothèques, elles vont pas payer de tous les côtés. Mais après, le fournisseur est libre, en fait, de sa tarification. Hein. On ne peut pas imposer quoi que ce soit avec un éditeur. On reste dans une négociation. Donc, il y a certains... Nous, le principe, c'est de leur dire, écoutez, en fait, les frais de connecteur, normalement, il ne devrait pas exister, les frais techniques. Mais bon, après, il y a plusieurs paliers. Après, ils peuvent être forfaitaires. Après, on peut avoir ils peuvent être offerts comme avantage Carel. On peut avoir aussi des remises Carel sur les frais techniques. Mais effectivement, il n'y a pas d'harmonisation sur ce point-là.
C'est-à-dire que là, souvent, ce sont les SIGB qui vous facturent les frais de connecteur. Donc, c'est vrai qu'Arel n'intervient pas sur ce secteur, mais sollicite quand même les éditeurs sur cette question et les incite à être plus que prudents. Nous, souvent, ce qui nous revient et ce qu'on a du mal à comprendre, pour ne pas aller plus loin, c'est comment se fait-il qu'un interfaçage coûte 3 000 francs ou plus ou moins par bibliothèque ? Parce qu'en fait, c'est le même. Donc là, il y a un souci et je pense effectivement que votre question est d'une grande sensibilité. Il faut, oui, qu'il y ait des actions communes en ce sens, d'une façon ou d'une autre. Mais à Carrel, on n'a pas du tout la main ni prise sur les producteurs de SIGB. Je vois qu'il y a M. Thébault, je crois, qui veut intervenir.
Ou dans le cadre du marché, dire, bah, écoutez, nous, on choisit un SIGB qui ne facture pas les frais de connexion.
Merci. Didier Thébault, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, un réseau Carrel des SIGB. Je crois que ça existe, hein. Je crois que ça s'appelle la FULBI même. Et je vous invite, en tant que président de la FULBI, je vous invite à discuter dans vos clubs, à contacter vos clubs pour Archimède, puisque on a cité Archimède, c'est la Duloa. Mm. Et ces problèmes de connecteurs, ça se discute aussi dans les clubs utilisateurs, qui est l'espace de discussion avec votre éditeur de SIGB. Et voilà.
Je voudrais... Oui, c'est vrai que les clubs utilisateurs sont extrêmement utiles. Merci. Merci beaucoup de l'avoir rappelé.
Pensez réseau.
Voilà.
Je voudrais juste faire une pas une question, mais plutôt un partage d'expérience sur un truc qu'on a mis en place là où je travaille, sur la médiation des ressources numériques. On avait un problème, on est abonné à Caféine. On avait un problème sur le nombre assez conséquent de la PQR sur Caféine. Et en fait, on a utilisé les outils de la data visualisation pour créer une cartographie interactive avec tous les titres de la PQR grâce à un fichier que nous a transmis Caféine, un fichier Excel. Et c'est une carte interactive de la France. Et à chaque point correspond un titre de PQR. Et quand on clique dessus, on a une mini-notice du titre avec l'apparition de la première de couve. Et quand on clique sur la première de couve, on va directement sur Caféine, sur la page de la ressource en question.
Alors, c'est bien, ces journées servent à ça. On va se rencontrer et puis on va relayer nos informations réciproquement. Merci beaucoup.
Pardon. Puisqu'on parlait de la presse. Emmanuel, peut-être parler des discussions qu'on a eues lors du dernier CA sur les bouleversements de la presse en ligne, parce que c'est un peu complètement dans le... C'est à la fois hors du sujet de la discussion, et en même temps, c'est complètement dedans. C'est-à-dire, on a un marché avec un fournisseur qui nous propose un certain nombre de ressources, et puis tout d'un coup, sans le savoir, on la prend par presse interposée, là, pour le coup, c'est le cas de le dire. On a des titres qui disparaissent, à citer l'équipe Le Point, c'est peut-être qu'un début. Parler un peu de cet état de fait quoi, qui est problématique pour nous et pour lequel on a, faut l'avouer, on n'a pas encore de réponse.
C'est vrai que ce qui existe déjà depuis fort longtemps, lorsqu'on s'abonne à un agrégateur de presse, type ce qu'on connaît, Europresse, Presse Display ou Caféine aussi, on ne s'abonne pas à un fonds, mais ça, c'est général hein, pour toutes les ressources numériques. On s'abonne à un service d'abonnement, c'est tout. Donc derrière, on prend ce qu'il y a. Alors, pour les agrégateurs, en tout cas, c'est comme ça. Malheureusement, dans leurs conditions générales, chez les agrégateurs, il est bien prévu, ils le savent bien, c'est leur fonds de commerce, que une partie des titres peuvent entrer, sortir, se transformer, subir des embargos, revenir, disparaître. Bon, et ça, c'est la vie de la presse. Mais dans la vie de la presse, il y a aussi la vie de la presse dans les agrégateurs. Comme il y en a des milliers et des milliers, c'est très compliqué à suivre. Malheureusement, quand ça touche des titres phares, donc on citait Le Monde, qui est maintenant avec des archives beaucoup plus réduites via Europresse, pour les bibliothèques de lecture publique, hein, parce que dans les autres comptes corporate n'ont pas été touchés, hein, donc c'est pour nous hein, que ça a été réduit, intéressant. La disparition donc programmée du Point et de l'équipe, enfin, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, l'équipe, ça va faire du bruit. Hein, le jour, enfin, c'est-à-dire là, à la fin de l'année, quand elle va sortir d'Europresse et de Presse, ça va faire du bruit. Donc là, évidemment, dès qu'il s'agit de titres phares, ou El Watan, hein, un des plus grands quotidiens d'Algérie, c'est tout de suite très visible. On n'a aucune prise sur les agrégateurs parce que c'est indiqué en toutes lettres dans leurs conditions. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester bouche bée et subir, parce que bien évidemment, pour nous, ce n'est pas la même chose. Donc là, je pense qu'il va falloir réagir, donc se réunir ensemble, travailler à cette question, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut tenter ou pas tenter. Il est évident que la première des choses, je pense, qu'on peut demander, c'est à être informé. Parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas été informé. On a appris par une dépêche AFP qui a été reprise par des journaux, mais c'est tout, quoi. Et puis, petit 2, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on paye la même chose? Est-ce qu'on demande d'autres titres en remplacement? Ben oui, mais quel autre titre va me remplacer le Watan? Je ne sais pas. Quel autre titre va me remplacer l'équipe? Je ne sais pas. Est-ce qu'il existe? Donc là, c'est vraiment ce qu'on disait au début, qu'on a affaire à un flux. Et un abonnement d'accès, on est en plein dedans avec ces questions d'agrégateurs.
Bonjour, Magali Morel de la Métropole de Lyon. J'avais une question, si vous parlez de négociation et vous parlez de marché, et souvent dans les services des marchés, les services juridiques, l'idée, c'est de pas trop solliciter les prestataires. Et de l'autre côté, vous nous dites que c'est bien de négocier. Alors, est-ce que vous avez une méthode particulière pour aller négocier en amont avant de faire un marché ?
Donc, si je comprends bien, vous liez dans votre question négociation et marché, ouais. C'est ça ? C'est-à-dire, ouais. Alors oui, vous savez que pendant les procédures de marché, ouais, et un petit peu avant, vous n'avez pas du tout le droit, hein, d'accord. Avant, bien sûr, rien ne nous oblige, et même au contraire, à ne pas voir, visiter les différents prestataires. Au contraire, en général, il est même plutôt conseillé de le faire pour que notre marché soit adapté à leur réalité et à leur monde. Après, négocier, c'est encore autre chose. Donc, les visiter, leur demander comment ça se passe, que, quoi, qu'est-ce, d'accord. Pour moi, enfin, dans mon esprit, négocier, c'est surtout dans le cadre d'un marché négocié ou dans le cadre où on a un marché, à la BPI par exemple, c'est le cas, où en fait c'est une agence d'abonnement qui travaille avec nous. Donc là, l'agence d'abonnement, elle me sert d'intermédiaire, mais c'est moi qui vais négocier avec les éditeurs. J'attends pas qu'EBSCO aille négocier pour moi, parce que sinon j'attendrai toujours. Donc voilà. Donc dans ce cadre-là, donc je suis dans un marché, mais mon marché, il n'est pas avec les éditeurs, il est avec un tiers. Donc je peux aller négocier. Si votre marché, c'est un marché d'exclusivité, donc un marché négocié, vous pouvez aller négocier. Au contraire, il faut, parce que sinon... Par contre, si c'est un appel d'offres qui vise les prestataires, si vous négociez bien avant, et après vous arrêtez, quoi, dès que vous êtes en début de procédure.
On aura sur cette question, c'est pour ça que j'interviens, un exemple très très précis de négociation qui est intervenu après coup, avec le Sillon Lorrain, donc Frédéric qui en parlera tout à l'heure. Et c'était intéressant parce que c'était pas explicite pour le coup dans l'appel d'offres, mais quand on s'est posé les questions, on s'est dit mais il faudrait négocier avec eux. Et Frédéric a réussi à trouver la clé, c'était pas simple, hein, t'en parleras mieux que moi. Mais voilà, on en parlera tout à l'heure.
Oui, Thierry de Bayon, Choisis le Roi. Je voudrais savoir si, au-delà des ressources documentaires, est-ce qu'au sein du réseau Carel ou ailleurs, peut-être dans la salle, des négociations ont été entreprises dans le domaine du jeu vidéo ?
Il y a une offre négociée jeu vidéo au catalogue Carel, c'est l'offre d'Indelab, d'Igame. Après, on est en discussion avec BlackNote. Mais BlackNote, disons, les bibliothèques, ça leur paraît très compliqué. Voilà. Donc, ils ne sont pas encore prêts à s'adapter à toutes nos contraintes techniques, etc., tarifaires, voilà. Et après, il y a beaucoup de bibliothèques aussi qui font le choix d'avoir des consoles et d'acheter les jeux titre à titre et de faire leur propre choix.
Oui, c'est ce qu'on envisage effectivement dans un premier temps, mais on se posait la question d'avoir une offre de jeux vidéo dématérialisée. Et donc de pouvoir offrir un service de flux de jeux vidéo.
Alors pour ça, on est quand même en relation avec la section jeux vidéo de l'ABF. On a rencontré Black Nut ensemble, donc on essaye de faire des négociations concertées. Et donc avec la BNF également.
Alors, je voulais juste rajouter que historiquement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y avait un groupe de travail Carel sur le jeu vidéo. Donc autour de quelques collègues qui réfléchissaient à ce type de ressources. Voilà, avis aux amateurs, mais effectivement la question n'est pas niée, mais il n'y a pas énormément d'acteurs aujourd'hui pour les bibliothèques. Mais à voir si on peut le susciter.
Une dernière question. Alors, Sandra Carzanet, Santé publique France, je ne fais pas du tout partie du réseau Carel, mais je m'y intéresse à distance. Je suis documentaliste et je voulais vous demander quel est le retour des usagers en fait, dans ce nouveau schéma qui est évoqué ici, et la satisfaction et l'évaluation, puisqu'on vous l'avez évoqué tout à l'heure, et savoir si depuis 2 ans, les comportements ont vivement changé et vous avez une explosion des consultations. Voilà.
Alors, c'est extrêmement compliqué, en fait, d'évaluer les usages de nos ressources en ligne parce que c'est un de nos nombreux combats. On aimerait que les pratiques statistiques des fournisseurs soient un petit peu homogènes et veulent dire quelque chose. C'est-à-dire que quand vous avez des fournisseurs d'auto-formation qui vous parlent en millions de secondes, ça vous dit rien du tout. Ça vous dit pas si une personne est restée une minute ou 2 heures sur une ressource. Voilà, donc on a une grosse disparité en fait d'outils administrateurs de la part des fournisseurs et le rôle de Réseau Carel et Emmanuel y travaille beaucoup, c'est de convaincre les fournisseurs de nous fournir des données qui soient analysables, quoi, qui soient utiles. Hein Et puis par ailleurs, on a observé un bond pendant le confinement, évidemment. Il y a beaucoup de fournisseurs qui ont fait des efforts pour ouvrir leurs offres. Il y a beaucoup de bibliothèques qui ont fait des efforts pour rendre l'inscription gratuite en ligne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a encore des choses à faire, c'est sûr. Mais à partir de là, on a du mal à savoir si ça touche un public. Donc on va voir le nombre de secondes, on va voir les livres, mais est-ce qu'ils ont réellement été lus? Est-ce que les ressources d'auto-formation ont réellement été utilisées? C'est très dur à savoir, en fait. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau national, il y a eu un bond phénoménal au moment du confinement. Ça, c'est certain.
Il y a l'Association des médiathèques départementales qui a sorti une super étude, il y a 3-4 mois, sur justement l'impact des ressources numériques et le retour qu'on a après 4 ans, 5 ans pour certaines médiathèques d'utilisation et qui est très bien documentée. Enfin, elle est reliée sur Actualité avec 2T. Voilà, donc je vous invite à...
être très bien cité, voilà, et ouais. En fait on essaye de se rapprocher, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais en inter-asso pour regrouper et partager les données, donc c'est très bien que vous en parliez. Et il y a par ailleurs l'enquête piloté par le, dont vous avez peut-être été destinataire, piloté par le ministère de la Culture avec notre concours sur les ressources numériques. La précédente datait de 2013 ou 2014, si je me souviens bien. Enquête là aussi assez qualitative et quantitative.